Les héroïnes, une heure avec des meufs.
Il y a quelque chose qui nous lie, nous vivons toutes les deux la nuit. Nous sommes nés sur les mêmes terres, encore plus à l'ouest que l'enfer. Jamais je ne te l'ai dit, je pense que la mélancolie qui coule dans ton sang et le mien est issue de ce foutu sein.
Les héroïnes, une heure avec des meufs sur Canal B.
Bonjour à toutes et à tous, c'est Morgane, bienvenue dans Les héroïnes, une heure avec des meufs. Avec moi aujourd'hui autour du plateau, il y a Marine Combe, fondatrice et rédactrice en chef du magazine féministe YEG, que l'on retrouve sur yegmag.fr. Bonjour Marine.
Bonjour.
Il y a également Suzanne Joly, autrice et fondatrice des ateliers d'éducation à la vie affective et sexuelle, Suzette décolle les étiquettes. Bonjour Suzanne.
Bonjour.
Il n'y a pas avec nous, mais par le cœur et la pensée, Lucie Loipre, journaliste à Canal B, productrice de l'émission d'info locale L'Arène, tous les jours à 17h sur cette même antenne. Lucie n'est pas là, mais elle nous a confié l'une de ses dernières interviews que l'on écoutera tout à l'heure. On va commencer avec une actu, elle est plutôt pas mal. J'avais très envie de vous parler de la sortie d'un livre. Alors bon, ok, il est paru le 27 mars dernier, c'est pas si vieux, hein, le temps que je l'achète, que je le lise, que je dis « Ah tiens, c'est intéressant, j'en parlerai bien ». Ce livre, c'est celui de la journaliste Nadia Dame, « La gosse » aux éditions Grasset. Alors pour vous faire le pitch, rien de mieux que de vous lire la quatrième de couve, de point, ouvrez les guillemets, je cite. « Tu verras, avec une fille, c'est plus facile ». C'est avec ces mots qu'on a voulu me rassurer il y a 18 ans quand j'ai annoncé le sexe de mon bébé à venir. Ça ne m'a ni surprise ni dérangée. Je me sentais davantage capable avec un enfant de mon espèce et n'en ai pas saisi les conséquences. Une fille, c'est plus facile, mais facile à quoi, pour qui et pourquoi ? Je pensais, toutes les premières années, qu'il n'y avait rien de plus dur qu'être privée de sommeil et de temps pour moi. C'est faux. Tenir éloigné une gosse qui devient une femme de tous les désastres liés à son genre est bien plus éprouvant. Même, surtout, si on se targue d'être féministe et d'avoir pour la nouvelle génération de grands desseins réparateurs. La gosse, ma fille, a grandi et creusé l'écart qui nous sépare. Elle s'élance, je me tasse. Elle veut arpenter la ville et le monde, je ne cours même plus pour attraper le bus. Elle pleure devant Sex Education sur Netflix, moi pendant les pubs pour les conventions obsèques. La gosse est de moins en moins gosse, ni facile ni difficile, même si elle est objectivement un peu chiante parfois. Au moins, j'ai retrouvé le sommeil, sauf quand elle sort le soir. Alors ce livre, fermez les guillemets. Ce livre, il est bouleversant, il est plein d'amour, il est drôle, sans pathos, alors que c'est parfois très intimiste. Mais Nadia Dame, elle sait parfaitement prendre le recul nécessaire à ce genre littéraire où quand la confidence devient universelle, puisque bien sûr ça parle du conflit générationnel universel et vieux comme le monde, ce moment où ton enfant adoré, qui ne jure que par toi, te copie, te suit partout et te répète 12 fois par jour que tu es la meilleure maman du monde, la plus belle et la plus gentille, devient adolescent ou adolescente et que subitement tu es la pire personne au monde, celle qui ne peut pas comprendre, celle à laquelle on s'oppose systématiquement et par principe. Ça parle bien sûr aussi de la relation mère-fille, mais d'une façon extrêmement moderne. Elle a 45 ans, hein, Nadia Dame, donc on aurait pu croire qu'elle serait un peu nostalgique. Elle l'est, hein, mais voilà, c'est très moderne. C'est à la fois pudique et sincère, c'est-à-dire que la journaliste ne s'épargne pas. Elle est totalement consciente de ses défauts. Et il n'est pas non plus ici question de faire le portrait des adolescentes des années 2020, mais plutôt de s'interroger sur le parent que l'on peut être quand on est une mère célibataire féministe et qu'on lâche des « tu ne vas pas sortir comme ça » à sa fille adolescente, alors qu'on aimerait tellement que nos filles ne subissent pas ce que nous avons subi, les injonctions, les critiques, les mises en garde et les « tu ne vas pas sortir comme ça ». Et là, la mère féministe se prend en pleine tronche toutes ces contradictions qui mettent à mal son féminisme. Et finalement, on en vient à cette question que toutes les mères féministes se posent. Est-ce que c'est plus difficile d'élever un garçon ou une fille. Nadia Dam nous rappelle juste que le monde n'a pas changé, ou si peu, trop peu, que les adolescentes et les jeunes filles de 2024 sont toujours aussi vulnérables, complexées, infériorisées, même celles élevées par des féministes. Et puis, alors, cerise sur le gâteau, Nadia Dam évoque avec humour la ménopause. Autant dire que ce livre m'a beaucoup, beaucoup plu, parlé et rassuré. Alors, elle m'a rassurée notamment sur un point. Moi, je dis tous les jours à mon fils, pratiquement tous les jours, que c'est le plus beau du monde, qu'il est beau, qu'il a de beaux cheveux, qu'il a un joli regard et que j'aime bien sa façon de s'habiller aussi. Voilà. Il paraît que tout ça, c'est des compliments qu'on fait aux filles. Et à ma fille, bien sûr, je lui dis que c'est la plus belle du monde, mais je lui dis aussi, surtout, qu'elle est intelligente et forte. Bref, voilà, ça m'a rassurée de ce point de vue-là. Lisez La Gosse de Nadia Dam. C'est chez Grasset et vraiment, ça se lit en 2 heures et je trouve que c'est vachement utile, même pour ceux et celles qui n'ont pas d'enfants, qui n'ont pas 45 ans, qui ne sont pas en périménopause, qui ne sont pas célibataires, parce qu'elle elle est mère célibataire. Hein. Lisez La Gosse de Nadia Dam. Marine, ça va être à vous. On va commencer les chroniques avec vous, parce qu'il paraît que c'était mieux avant. Pour qui ? Pourquoi ? Adapté de la pièce Angry Alan de Penelope Skinner, vous nous parlez, Marine, du seul en scène Backlash du groupe Vertigo qui s'attaque au masculinisme et décortique les mécanismes insidieux d'un relent conservateur et nauséabond face aux avancées du féminisme.
Direction les USA, dans le Kentucky exactement, à notre époque. Divorcé, père d'un ado qu'il ne voit jamais, Danny est assistant manager et vit avec Courtney, sa nouvelle compagne. Quelque temps auparavant, il a été licencié d'un boulot bien payé. Ce matin-là, un lundi tout à fait standard, il envisage d'aller courir, mais à la place, il tombe dans le vortex de Google, hein, qui va le faire naviguer d'article en article et sombrer dans les affres du numérique, là où le temps s'arrête et où le cerveau se nourrit avidement de tous les contenus proposés, dont cette vidéo sur l'histoire racontée par Angry Alan, qui prône et revendique le mouvement de défense des droits des hommes. Une blague ? Non. Une soi-disant évolution naturelle du mouvement des femmes qui est allée trop loin jusqu'à imposer à toutes et à tous une société gynocentrée. C'est pas une fiction, hein. Ici, les hommes ordinaires souffrent. Lâche Danny, convaincu de trouver dans les paroles de son gourou le sens de son malaise, la source de son inconfort physique et mental, la clé de son émancipation d'homme banal et frustré à un homme puissant et viril. Alors, jusqu'ici, on serait tenté de le voir, de voir le positif de la situation, de penser en termes d'empouvoirment et d'empuissancement, une émancipation individuelle nécessaire, au même titre que celle des femmes et des personnes sexisées qui s'affranchissent peu à peu des codes, normes et assignations de genre dénonçant la construction sociale établie par le patriarcat et inventant de nouvelles manières de penser et de vivre en dehors du sexisme et de la binarité. Pourtant, on se réjouit pas, parce qu'on comprend dès le départ que Danny, paumé et en perte de repère, se jette dans les filets du masculinisme qui utilise la rhétorique du féminisme pour mieux la piétiner et la tourner en discours victimaire avant de s'approprier celui-ci au titre d'un soi-disant sexisme gynocentriste. Et c'est là toute la sève nauséabonde du backlash, un concept théorisé au début des années 90 par Suzanne Faludi dans un livre éponyme qui décortique les réactions machistes et extrémistes, inquiètes des avancées féministes et de la perte des privilèges attribués jusqu'alors aux hommes, évidemment blancs, hétéros, cisgenres, valides, riches, etc. Ainsi, le patriarcat virulent brandit l'actualité. L'égalité acquise entre les hommes et les femmes et sème le trouble dans les esprits. Pourquoi les femmes se plaignent-elles alors qu'elles y sont arrivées ? Des incels aux militants d'extrême droite, en passant par les participants au stage de virilité, les mascus cultivent la haine des femmes et le rejet des féminismes qu'ils estiment être la cause de tout leur malheur. Alors dans son essai, Suzanne Faludi, elle écrit, je cite, « Lorsque le féminisme est au sommet de la vague, les opposantes ne se laissent pas emporter si facilement par le ressac. Elles résistent de toutes leurs forces, montrent le poing, construisent des remparts et des digues. Et cette résistance crée des contre-courants, fait surgir de redoutables lames trame de fond. Elle s'attache à montrer toutes les fluctuations dans l'histoire américaine des droits des femmes, les levées de boucliers et retours acharnés de bâtons, et démontre que non, l'égalité décriée par les masculinistes est loin d'être réelle, vraiment loin de l'être. Au contraire, l'époque est plutôt au recul et à la dégradation un peu partout dans le monde de la condition des femmes. Le dernier rapport du Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes nous l'a encore prouvé. Alors dans Backlash, Ingrid Allan vient contrecarrer ces faits, blindés et pétris dans des statistiques et données complètement tronquées, qu'il modélise et ajuste selon les besoins de son argumentaire. Bérangère Nota et Guillaume Doucet du groupe Vertigo ne le contredisent pas. Alors pas par acceptation ou approbation du discours, bien au contraire, le duo nous confronte à la mécanique sournoise, nauséabonde et insidieuse du masculinisme et à la facilité avec laquelle elle peut toucher des hommes dont la vulnérabilité inadéquate à la virilité et masculinité toxique a laissé une plaie béante qui suffit de frôler pour activer et s'engouffrer dans les méandres d'un esprit agité et brisé. Alors, c'est la performance de Philippe Baudet qui a souligné et a salué ici, tant il incarne à merveille ce personnage floué et embourbé dans les failles de son ego si simple à manipuler, qu'il va même jusqu'à lâcher 900$ pour assister à un week-end de colloque organisé par Ingrid Allan. En pleine admiration, il se perd dans son enthousiasme et son élan qui l'aveugle et se déchaîne rapidement en rage et en noirceur, se pensant comme un héros des temps modernes confronté à une grande adversité. En réalité, c'est le portrait d'un homme un brin ridicule, influençable et écrasé par l'injonction à la virilité qui est dressée dans ce spectacle. Un raté, selon les normes patriarcales, qui pense reprendre sa vie en main en accusant les féministes et en s'adonnant à la mauvaise foi masculiniste qui prône sa résistance face à l'oppression exercée par le régime gynocratique. Perçant de contre-vérité, le discours de plus en plus acerbe d'Ingrid Allan, magnifiquement interprété par un Guillaume Trottignon, troublant de réalisme néfaste, infuse doucement d'abord, profondément ensuite, en un Dany déconnecté de la réalité de la société et de son rapport systémique à la domination. Difficile de garder son calme, difficile de retenir et de contenir notre énervement, la boule au ventre grandit et elle affecte tous nos sens parce que ça transpire la mauvaise foi et ça nous explose les neurones et les entrailles. On voudrait lui arracher la bouche à cet Ingrid Allan qui profite du monde virtuel pour répandre sa haine dans le monde réel et on voudrait secouer ce Dany qui croit au regain de sa virilité, enfin de sa vitalité surtout, grâce à cet élan de brutalité et de violence qu'il n'entrevoit même pas, jusqu'à finir par braquer un fusil sur son fils qui, lui, s'interroge sur la fluidité des genres. Constamment sur le fil de l'émotion, le spectacle est puissant tant il nous saisit de cette ambivalence entre colère et empathie envers Dany. Au fond, il est un pion du patriarcat qui s'insinue dans cette soi-disant confusion des genres et répand toute sa haine misogyne par des bras armés tels que Ingrid Allan ou d'autres influenceurs qui se doivent désormais d'être mis face à leurs responsabilités.
Merci Marine. Alors on retrouve l'intégralité de votre article sur yegmag.fr puisque vous avez assisté au spectacle Backlash du groupe Vertigo. C'était le 12 avril dernier au Tambour, à Rennes 2. Juste après, la conférence des Mardi de l'égalité sur les alpha mâles de Mélanie Gourarier, dont on va écouter l'interview tout à l'heure, une interview réalisée par Lucie Loipre. Mais on va tout d'abord faire une pause musicale dans Les Héroïnes sur Canal B. On va écouter Saint Graal, Je t'emmènerai.
Te dire que je t'aime en un battement de cœur, en un battement de cils, tu fais trembler la ville. Te dire que tu que la vie sans toi n'a plus le goût de l'amour. Je t'emmène à faire l'amour sur les plages que tu ne connais pas. Je t'emmène à faire le plus beau du braquage pour qu'on parle de toi. Et moi j'irai faire la guerre tout seul qui ne me prend pas. Je t'emmène à les voir sous mon milieu, tout n'est pas.
que toi. Je crois que tu m'assassines des flèches dans la poitrine. Te force pas la main, je sais que tu vaux mieux que moi. Forcément romantique quand on parle de toi. Tu ne connais pas. Je t'emmènerai faire le plus beau des braquages pour qu'on parle de toi. Et moi j'irai faire la guerre de tous ceux qui ne me croient pas. Je t'emmènerai voir de ce monde ennuyeux où tout n'est pas.
Saint Graal, je t'emmènerai sur Canal B dans les héroïnes. On vient d'écouter la chronique de Marine Combes sur le spectacle du groupe Vertigo, le spectacle Backlash. Je vous propose qu'on poursuive avec la fameuse interview que Lucie Loipre nous a confiée. Elle a récemment rencontré Mélanie Gourarier, anthropologue, chercheuse au CNRS et autrice du livre Alpha Male pour s'apprécier entre hommes, paru en 2017 aux éditions du Seuil. Elle est venue à Rennes pour une conférence lors des Mardis de l'égalité organisée par Rennes 2 et on écoute tout de suite son interview.
Beaucoup de mes amis disent voilà, être un homme c'est être fort, c'est s'affirmer, voilà, c'est... Et moi je me reconnais pas tout le temps là-dessus et donc je suis venu voir ce que c'est être un homme.
Aujourd'hui les pères sont plus présents avec leurs enfants, sont plus soutenants avec leur épouse, partagent plus les tâches ménagères et je pense que pour l'homme aujourd'hui c'est pas évident de s'y retrouver.
On attend beaucoup d'un homme, on lui demande d'être viril mais doux. Et aujourd'hui, il faut se positionner par rapport à ça, sans être viril, sans être macho. Doux, sans être mou.
Pour les organisateurs, être un homme, c'est être viril. Et pour les encourager à affirmer leur virilité, ils ont prévu des épreuves sportives où l'on montre ses muscles. Ici, il faut pousser cette voiture le plus vite possible.
Extrait d'un reportage diffusé sur France 2 il y a de ça déjà quelques années, puisque c'était en 2017 où on a entendu des voix d'hommes qui se questionnent sur ce que c'est être un homme, et c'est le sujet de notre entretien avec Mélanie Gourarier. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes anthropologue spécialisée dans les questions de genre et de sexualité, chercheuse au Centre National de la Recherche Scientifique. Alpha Male, la pensée masculiniste et ses adeptes, c'est le titre donné à la conférence en lien avec un ouvrage que vous avez publié en 2017, Alpha Male, séduire les femmes pour s'apprécier entre hommes, publié aux éditions du Seuil. Alors il se trouve que 2017, année du reportage là, dont on vient d'entendre un extrait, c'était aussi le lancement du mouvement MeToo avec l'affaire Weinstein. On a donc observé deux mouvements un peu inverses au même moment, même si, vous l'expliquez, il y en a une idéologie en tout cas qui préexistait à l'autre.
Oui, et ben merci de faire ce lien de la préexistence en fait de deux mouvements qu'on imagine être ultra contemporains. D'une part, ce qu'on appelle la libération de la parole avec MeToo, et d'autre part, la montée des masculinismes. Et alors ce qu'on montre un peu nous dans les sciences sociales, c'est que c'est et en histoire notamment, c'est que ces deux mouvements-là, ces deux tendances-là, sont absolument pas nouvelles, mais que ces tendances-là intéressent davantage aujourd'hui. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que vraiment ça vit ensemble, quoi.
Comment est-ce qu'on caractérise l'idéologie masculiniste ? Vous parlez d'une idéologie du patriarcat, mais qui en fait donc se diffuse depuis longtemps et dans toutes les sphères de nos vies. Autour de quoi ? Une vision un peu traditionnelle de ce que c'est être un homme ?
Alors pas forcément traditionnel, justement c'est la définition que je propose. Donc pour moi le masculinisme c'est pas des personnes, c'est pas des gens, c'est une idéologie particulièrement diffuse qui infuse dans toutes les strates de la société, y compris dans nos propres têtes, à nous-mêmes, à moi-même je dirais. Et du coup c'est une idéologie qui consiste à penser la masculinité comme problématique. Ce qui fait qu'en fait il y a tout un éventail de pratiques qui part effectivement de pratiques qu'on va considérer comme particulièrement problématiques, inquiétantes, qui sont les masculinistes dont on parle beaucoup, notamment avec la manosphère, donc les masculinistes qui font du harcèlement en ligne, par exemple. Mais aussi, moi, ce que j'intègre dans cette question du masculinisme, c'est des masculinités, celles qu'on entend dans le reportage, donc dites en réforme, qui se repositionnent vis-à-vis d'un monde en mouvement à l'intérieur duquel, soi-disant, la masculinité serait restée inamovible, quoi. Immobile, plutôt. Et voilà, et c'est toute cette ces déclinaisons de masculinité qui m'intéressent.
Votre ouvrage, donc on donne son titre, Alpha, Mâle, séduire les femmes pour s'apprécier entre hommes, il date donc de 2017. Vous aviez mené l'enquête auprès de coachs en séduction, des coachs qui se sont développés depuis les années 90. Et ce que vous avez décrit avec ces coachs en séduction, c'est que paradoxalement, le séducteur, il s'épanouit dans l'entre-soi masculin. On sent que le féminin est un peu perçu comme une menace et qu'il faudrait la mater, on va dire comme ça, et donc adopter des codes pour ça.
Alors j'irais même au-delà, en fait, parce que c'est ça qui m'a vraiment particulièrement intéressée, c'est de me rendre compte que j'avais affaire à des réunions d'hommes qui parlaient des femmes, certes, mais qui ces réunions-là se passaient entre hommes. C'est-à-dire que les trois quarts du temps de mon terrain, il ne s'agissait pas uniquement des cours de séduction, hein, c'était des moments d'entre-soi masculin quasiment tout le temps, et qu'en fait, j'avais affaire à des rapports entre hommes beaucoup plus qu'à des rapports hommes-femmes. Ça, c'est une première analyse, je dirais. Et l'autre analyse que je pose, c'est plutôt celle, finalement, aussi qui paraît paradoxale, mais plus on devient séducteur et plus on se détache, on se désintéresse des femmes, parce qu'au-delà d'être une menace, elles sont inintéressantes en fait. Ce qui est intéressant, ce qui est valorisé, c'est les relations masculines, les relations entre hommes, l'amitié masculine.
De quelle façon est-ce qui se joue là dans ces espaces organisés par des coachs en séduction se diffuse ensuite ailleurs dans la société, puisque vous le dites, cette idéologie elle agit sur l'économie, le politique, le rapport à la nature, le travail, évidemment la sexualité et le genre. Comment est-ce que tout ça se diffuse d'un espace à l'autre ?
Eh bien, c'est la difficulté de penser ce qu'on va considérer comme étant des paradigmes, des manières de penser aujourd'hui. Qu'est-ce qui imprègne dans la tête, dans les représentations du monde social ? C'est un peu tout le travail de l'anthropologue. Donc en fait, moi je travaille sur les catégories et sur la... Alors là, ça a l'air très abstrait comme ça de dire que la masculinité, ça concerne la nature, mais par exemple, alors c'est un champ de recherche en plein développement, mais sur les questions d'extractivisme, on voit bien à quel point c'est opérant de s'intéresser à la question des masculinités, parce que ça induit en fait un rapport à la géographie, qui a un rapport d'expansion, un rapport d'appropriation des territoires qui se pose dans ce qu'on considère être aujourd'hui comme une pensée extractiviste, qui est celle dans laquelle on est encore aujourd'hui. C'est valable pour la nature, mais c'est valable aussi pour le politique. Je prendrai un autre exemple, si j'ai encore un peu le temps, qui est celui du vocabulaire un peu martial qu'on retrouve dans le champ politique aujourd'hui.
Le réarmement démographique.
Le réarmement démographique, vous me l'enlevez de la bouche, qui est le plus récent, enfin un des plus récents qu'on a entendu. Voilà, donc on voit bien que dès lors qu'on pose la question des masculinités, en fait, on ne travaille pas uniquement sur les hommes.
On écoute un deuxième extrait sonore, plus récent que le premier, qui datait donc de 2017, puisqu'on va essayer de voir aujourd'hui si le phénomène s'est amplifié. Extrait d'une des dernières émissions de Blast, animée par Salomé Sacquet. Elle date du 25 février. Il était donc question des masculinités.
Ils sont des centaines, des milliers, peut-être même des millions, les masculinistes. Des hommes qui ont fait de la haine des femmes une doctrine de vie.
And we have to be able to say what we have to say badly, or we won't be able to think at all.
Si tu veux, aujourd'hui, l'homme, il est sans but, et il est dans une société où il n'y a plus que des prérogatives de femmes.
And I would say that's another problem with the modern feminists, is they can only think about one thing at a time.
À l'heure où la parole des femmes se libère, le mouvement masculiniste se renforce. Ses discours anti-femmes rencontrent un écho fort chez des hommes de plus en plus nombreux, et vous en avez sûrement dans votre entourage.
Alors les gars, il y a de plus en plus d'hommes qui se font marcher dessus par les femmes.
Et je le lâche comme ça, comme un pavé dans la mare, mais oui, les femmes sont attirées par les hommes qui pensent être supérieurs à elles, tout simplement.
Vous devez savoir que les filles qui étaient arrogantes envers vous peuvent changer leur comportement et devenir douces et soumises.
via une vidéo sur des cours de séduction ou de musculation, au détour d'une simple recherche Google, on peut tomber sur leur réseau sans s'en rendre compte et rapidement se laisser emmener par les algorithmes.
I say that women should bear some responsibility for being raped. I'd like to take this time and explain what I was saying in long format video.
Aux États-Unis, ce phénomène est si puissant qu'il mène régulièrement à des attentats perpétrés à l'encontre des femmes, assassinées pour le simple fait d'être femmes. Cette haine ne se limite pas aux frontières d'Internet, pour une partie, elle finit donc par se traduire en meurtre.
You girls have never been attracted to me. I don't know why you girls aren't attracted to me. But I will punish you all for it.
Il s'appelle Elliot Rodger et il a 22 ans. Il a tué 6 personnes en quelques minutes. Il s'est installé au volant de sa voiture et a tiré par balle sur toutes les jeunes femmes qu'il a croisées, faisant 3 nouvelles victimes.
Dans l'Hexagone, le phénomène est loin d'être anodin et a réussi à coloniser la culture populaire.
Non mais calmez-vous madame, ça va bien se passer. Aujourd'hui, il y a une baisse de 30%. Ça va bien se passer, il va bien se passer.
Le pouvoir ne doit pas rester seulement dans la main des hommes.
Mais bien sûr que si, sinon il se dilapide. Les femmes sont les régentes. C'est dans l'histoire de France, ça a toujours été comme ça.
Oui, mais il faut le
Elles
partager.
Elles n'expriment pas le pouvoir. Elles n'incarnent pas le pouvoir, c'est comme ça. Je vous dis, le pouvoir s'évapore dès qu'elles arrivent.
Ces militants, organisés sur les réseaux sociaux, sont de plus en plus actifs et de plus en plus puissants.
Des hommes obsédés à l'idée de punir les femmes, qu'ils tiennent responsables de leur misère sexuelle, et qui sont considérés comme une menace terroriste par le département de la sécurité intérieure des États-Unis.
Qui sont-ils? Pourquoi représentent-ils un danger bien au-delà du harcèlement en ligne? Quelles sont leurs motivations? C'est ce qu'on va voir avec une journaliste qui a infiltré leur réseau et a discuté avec eux pendant plus d'un an. Elle s'appelle Pauline Ferrari et on va répondre à toutes ces questions avec elle dans cette nouvelle émission pour Blast.
Bon, ça, ce n'était qu'une intro, une introduction d'une émission réalisée par Blast à retrouver en ligne, consacrée donc aux masculinistes et animée par Salomé Saquet. Ça a été diffusé le 25 février dernier. On est toujours avec Mélanie Gourarier en studio, anthropologue spécialisée dans les questions de genre et de sexualité. Alors, en janvier 2023, le Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes s'inquiétait de la montée de l'antiféminisme sur les réseaux sociaux. Y a-t-il vraiment une poussée de l'idéologie masculiniste? Oui, mais pas que chez les jeunes et pas que sur les réseaux sociaux, on le résume comme ça.
Oui, alors ça, c'est toute la difficulté à prendre les chiffres. C'est-à-dire que c'est pas parce que... ces chiffres-là peuvent être compris parce que c'est nouveau qu'on les observe, en fait. C'est assez récent qu'on les observe. Moi, j'affirmerai pas, j'ai pas les moyens d'affirmer qu'il y a une recrudescence de la violence verbale ou du harcèlement en ligne. Et par contre, ce qui me questionne plus, hein, parce que je cherche à voir aussi les formes banales, moi, de sexisme, c'est ce traitement-là très, très, très sensationnaliste avec les masculinistes. Qui sont-ils? Quels sont leurs réseaux? Alors même que, et là, je trouve ça intéressant dans le reportage, que c'est rare, quand même, il faut le dire, qu'il y a un rapprochement entre les discours des hommes en ligne et les discours de certains hommes politiques. Et en fait, c'est ça qui est vraiment intéressant. C'est qui sont-ils? Quels sont leurs réseaux? C'est pas un réseau organisé. C'est encore une fois une idéologie extrêmement diffuse qui se retrouve aussi dans la littérature, dans le cinéma, un peu partout, en fait, et qui fait penser que la masculinité, c'est une identité qu'il faut défendre, en fait. Et quand bien même il s'agit de l'améliorer, en fait, ça reste une identité à protéger, à réformer, à défendre, etc. Et tout ça, ça participe en fait d'une reconduction finalement de pur et simple de l'ordre du genre, en fait.
Alors que, donc on le comprend, le mouvement est beaucoup plus large avec, on va dire, un conservatisme qui gagne du terrain en Europe sur cette question-là, mais aussi sur les questions d'écologie, de migration, de famille. Est-ce qu'on peut quand même estimer que cette médiatisation aujourd'hui du phénomène dans le sillon de MeToo, là, depuis 2017, a participé d'une certaine façon à la diffusion de l'idéologie masculine? Est-ce que ces idées ont pu gagner du terrain via des reportages, des interviews?
Alors c'est certain, et puis ayant pu observer en fait le moment où on n'en parlait pas et le moment où on en parle, il y a une différence nette entre le moment où je sors mon livre, où arrive MeToo, et aujourd'hui, où finalement parler de masculinisme, c'est quelque chose qu'on entend régulièrement, questionner la masculinité aussi, etc. Donc c'est sûr qu'il y a eu ces 10 dernières années, en raison et grâce à MeToo, un regain d'intérêt, en tout cas pour les questions de genre, pour les questions aussi d'intimité, de sexualité, d'amour, de rapport au corps, etc. Ainsi que le monde, par exemple, les travaux de Camille Froidevaux-Métry.
Dans le même temps, vous estimez que les recherches autour des masculinités sont plus que jamais nécessaires aujourd'hui. Vous dites que c'est un nœud central pour comprendre la question du pouvoir et comprendre ce qui est advenu de nos sociétés aujourd'hui. On retrouve ces propos dans une interview donnée aux médias locaux Unidiver. Et vous observez d'autres chercheurs qui s'emparent du sujet
Ah oui, oui, je ne suis pas toute seule. Et heureusement, même si on était, quand j'ai commencé, tout à fait minoritaire en France, j'ai travaillé par exemple avec deux collègues. On a fait un congrès en fait sur le concept de masculinité hégémonique, un concept dans lequel on travaillait sur nos thèses. Mes collègues, c'est Florian Voros qui travaille sur la pornographie, déconstruit le rapport à l'addiction à la pornographie dans sa thèse et dans un ouvrage qui est sorti récemment à la Découverte. Et aussi Gianfranco Rebuccini qui a travaillé sur l'homoérotisme au Maroc. Voilà, donc on a eu un moment comme ça au début des années 2010 de rencontres autour de travaux assez minoritaires, donc sur les masculinités, notamment les masculinités hétérosexuelles. On a eu envie de diffuser des concepts qui étaient opérants pour nos enquêtes, en fait, donc notamment le concept de masculinité hégémonique de Raywin Connell, etc. Donc il y a depuis, heureusement, et je le vois moi, avec puisque je dirige des masters, donc avec le nombre de sujets qui sont proposés par les jeunes masters sur les masculinités, on est passé du simple au double, voire plus du double. Donc il y a un intérêt nouveau pour ces questions-là et de plus en plus de jeunes chercheurs en histoire, en sociologie, en philosophie, en études littéraires qui travaillent sur ces questions-là.
Dernière question, lorsqu'on voit par exemple les incels, cette communauté en ligne de jeunes hommes hétérosexuels qui souffrent de ne pas avoir de succès en amour et qui développent une rhétorique antiféministe, et qu'on voit donc ces communautés qui sont donc dans un entre-soi masculin avec une haine des femmes, on va le dire comme ça, est-ce qu'il y a un dialogue possible avec ces communautés-là, avec ces hommes-là, quand on voit la caisse de résonance que leur offrent les réseaux sociaux? Est-ce qu'on peut dialoguer? Qu'aviez-vous observé lors de votre travail d'enquête avec des coachs en séduction en 2017?
Alors, bon, moi, c'est mon travail de dialoguer avec eux, donc je ne vais pas vous dire non, il ne faut pas dialoguer, parce que essayer de comprendre ce qui s'y passe. Enfin, moi, je prends très au sérieux leur discours. Je ne suis pas dans une évaluation de... Par exemple, ils ont un discours sur la souffrance. Je ne vais pas leur dire qu'ils ont faux, que leur discours, ils ont tort de se sentir souffrant. Ils se sentent souffrants, ils l'expriment. Parfois, ils ont des émotions visibles, des larmes, etc. Je ne peux pas juger de l'authenticité de ce qu'ils ressentent. Mais le travail des chercheurs, je dirais, c'est de prendre ces discours-là et de les remettre dans une perspective plus large que celle à la fois de l'histoire, mais à l'échelle aussi de la sociologie. Et si on met ces discours à l'échelle de l'histoire, on se rend compte que ces discours de souffrance sont récurrents dans l'histoire, donc ils ne sont pas nouveaux. Et à l'échelle de la sociologie, les hommes qui expriment cette souffrance-là sont plutôt très bien positionnés dans l'échelle sociale, à l'échelle globale. Mmh. Voilà. Et donc c'est ça un peu le travail qu'on fait, c'est de remettre en perspective ces discours.
Et de redire qu'il n'y a pas eu d'inversion de la situation dans les rapports égaux hommes-femmes, quoi.
Exactement, et ça c'est des chiffres aussi qui nous le prouvent, ou les travaux de mes collègues qui travaillent sur les inégalités faites aux femmes. Et là, on voit bien qu'à tous les niveaux, il n'y a aucune enquête qui atteste d'une suppression de la domination masculine.
Mélanie Gourarier, vous êtes donc anthropologue, chercheuse au CNRS, le Centre National de la Recherche Scientifique. Et j'ajoute pour terminer que votre ouvrage, dont on redonne le titre...
Alpha Male, séduire les femmes pour s'apprécier entre hommes.
Paru aux éditions du Seuil en 2017, on pourra le trouver sur place grâce à la librairie. Comment dire ? Merci beaucoup.
Merci à vous.
Merci Lucie Loipre pour cette interview de Mélanie Gourarier, anthropologue, chercheuse au CNRS et autrice donc du livre, je le rappelle, Alpha Male pour s'apprécier entre hommes, paru en 2017 aux éditions du Seuil. Alors en 2017, il y avait aussi un autre livre qui était paru, on en parlait là, celui de Olivia Gazalet, Le mythe de la virilité, et voilà, j'ai oublié le sous-titre.
Un piège pour les deux sexes.
Voilà, le mythe de la virilité, un piège pour les deux sexes, qui était paru au même moment pour raconter comment ce mythe de la virilité fait autant de mal aux femmes qu'aux hommes. Et puis malheureusement, moi j'ai vu tout récemment en fait, la semaine dernière, que les masculins sont bien là et ils ont trouvé un nouveau maître, un nouveau gourou venu des États-Unis. et il s'appelle Bedros Gulyan. Je ne sais pas si je prononce bien, on s'en fout. Et il organise des Alpha Males Bootcamp, des camps d'entraînement d'hommes alpha. Ce sont des stages intensifs de rééducation à la masculinité sur 3 jours pour devenir des hommes, des vrais. Et pour Bedros Gulyan, des hommes, des vrais, ben, ce sont des hommes respectés et admirés. 3 jours pour la modique somme de $18,000, soit 16 800 € environ. Et alors, on a quoi à ce prix-là? De l'effort, de la sueur, de la muscu, et aussi se faire hurler dessus par des coachs dont les propos se résument à « t'as envie d'être une mauviette, pourquoi je prends l'accent de la... du mascu ? T'as envie d'être une mauviette toute ta vie ? Alors vas-y, soulève de la fonte. » Voilà, on n'a pas le cul sorti des ronces. Or, ça se passe aux États-Unis, mais ça arrive en France, c'est déjà un peu là. On va faire une nouvelle pause musicale dans les héroïnes sur Canal B pour se remettre de tout ça. On va écouter BB Club, Parc de Beauvoir. Parc de Beauvoir sur Canal B dans les héroïnes. Suzanne, vous avez choisi de nous parler du spectacle Calme de l'humoriste Swann Périssé qui est passé au Ponant le 13 avril dernier. Alors, faut se méfier du titre de ce spectacle. C'est un contre-pied parce que Swann Périssé est tout sauf calme. Elle est plutôt en colère. Et puis, après ça, vous nous ferez un petit update sur le Me Too stand-up dont vous avez déjà parlé ici.
Oui, tout à fait. Donc le 13 avril dernier, Swann Périssé, une humoriste que j'adore et que j'ai découvert sur les réseaux sociaux il y a plusieurs années maintenant, est venue jouer son spectacle Calme, du coup, à la salle du Ponant à Passy. Et bien sûr, c'est un spectacle qui n'est pas du tout calme. On n'en ressort pas du tout serein et sereine, mais on en ressort remonté et c'est tant mieux. Parce qu'on sait à quel point cette émotion, elle est enfouie dès le plus jeune âge chez les filles et les femmes. Et donc là, le but du spectacle, c'est vraiment un peu de soulever le public, tout en passant un très bon moment. C'est hyper drôle. Et donc du coup, j'ai décidé de faire cette chronique sur ce spectacle aujourd'hui parce qu'il y avait déjà tellement de choses qui me mettaient en colère dans l'actualité ces derniers temps que je me disais que ça allait être compliqué de choisir. Du coup, j'ai pris la tangente avec ce spectacle. Mais avant de vous en parler, je vous propose quand même qu'on fasse un tour de ce qui vous rend en colère en ce moment si vous ne deviez choisir qu'une seule actu. Et c'est difficile.
Ouais, c'est compliqué.
Il y a le retour sur scène, justement, pour parler d'humoristes qui font pas rire. Le retour sur scène de Harry Habitant, qui revient avec son spectacle authentique pour nous livrer sa vie, sa sensibilité et sa vision du couple.
De violeur.
Voilà.
Supposé.
Oui, voilà, non-lieu, mais tout de même.
Ouais, je suis bien d'accord avec ça. Alors moi, je vais en faire un coup de gueule après vous, Suzanne, mais on en parlait. C'est la relaxe hein, de ce policier, Yves Mila. Voilà. Violeur, agresseur de sa femme, ses enfants. Ça m'énerve bien. J'en parlerai tout à l'heure. Et vous proposiez aussi un autre choix qui m'énerve bien aussi, parce que plus c'est tout frais. C'est le livre... Le nouveau livre de ces deux transphobes là.
On n'a pas forcément envie de dire.
Non,
le nom,
on va pas dire
enfin,
le nom.
Du livre,
ouais,
en tout cas.
Ouais.
Mais qui relance la vague bien transphobe sur les réseaux sociaux. Donc, on rappelle notre soutien à toutes les personnes trans au passage parce que c'est un vrai torchon qui est repris d'ailleurs par l'extrême droite. Donc, au cas où on avait un doute, là, c'est sûr. Voilà, elle s'envoie des petits mots doux avec Marion Maréchal Le Pen, etc. Donc. C'est grave. Et moi, ma colère du moment, ce sont les dernières annonces de notre cher Premier ministre Gabriel Attal qui s'attaque à la jeunesse, mais pas pour y mettre des moyens, mais pour les enfoncer encore un petit peu plus. Car ici, le sujet, c'est la violence des mineurs. Donc on avait bien compris que le gouvernement déjà voulait remettre de l'ordre et de l'autorité avec des propositions comme l'uniforme, etc. D'ailleurs, dans son discours sur comment ne pas céder à la violence des mineurs, etc., il utilise le mot « autorité » une trentaine de fois. Mais là, son idée, c'est de proposer aux jeunes des quartiers populaires, notamment, de rester plus longtemps dans l'enceinte des établissements scolaires, en partant du principe qu'ils n'ont rien à faire dans la rue, après l'école, etc. Donc, pareil, est-ce que tous les jeunes des quartiers populaires traînent dans la rue, etc. Et puis, il veut aussi inscrire les comportements perturbateurs des élèves dans leur dossier. Et dossier qui va du coup les suivre tout au long de leur scolarité, y compris ensuite pour le passage en études supérieures, etc. Donc voilà, des annonces qui m'ont vraiment choquée parce que on dirait des annonces d'extrême droite, quoi. Et puis on reproduit cette idée selon laquelle les jeunes sont un groupe qu'il faut mater, qu'il faut dominer, alors que c'est clairement ce qui fonctionne le moins avec les ados. Mais ça, faudrait s'y confronter pour le savoir. Donc on veut bien qu'ils viennent dans les établissements scolaires, les maisons de quartier, les espaces jeunes, etc., pour rencontrer un peu ce public et discuter avec eux, plutôt que de nous imposer ce genre de mesures. Et puis pour revenir au spectacle calme de Swann Périssé, le point de départ de l'humoriste, c'est justement que entre la situation politique du pays, entre les désastres écologiques, les violences faites aux femmes, etc., etc., elle a du mal à gérer ses émotions dans ce monde et donc elle cherche des solutions désespérément pour essayer de mieux vivre ses émotions. Et donc du coup, elle nous fait part de ce cheminement, de ses expériences dans ce spectacle. Et elle commence par exemple par nous parler de son psy, qu'elle dit d'ailleurs être un homme blanc de plus de 50 ans, qu'elle a lâché depuis du coup, qui lui propose, plutôt que d'être en colère ou de vivre intensément les choses, de faire preuve de curiosité intellectuelle, en se disant par exemple que face à des situations qui peuvent susciter des émotions fortes, de se dire « Tiens, comme ces gens sont étranges !» Une vision qu'elle démonte assez rapidement parce que face à des comportements du style ceux de Gérard Depardieu ou d'Armanin et compagnie, forcément cette vision ne tient pas la route bien longtemps. Elle nous parle aussi beaucoup de relations sexuelles, c'est son humour, ses vidéos sur les réseaux sociaux sont beaucoup basées là-dessus. Et dans son spectacle, elle redonne des tips concrets pour respecter le consentement de son ou sa partenaire sans que ce soit pour autant du réchauffé ou que ce soit plombant, etc. Je trouve que pour le coup, c'est pas ce qu'on entend partout sur le consentement, etc. Donc c'est vraiment chouette et tout en faisant pleurer de rire le public. Donc c'est ça qui est fort. Et du coup, c'est vraiment un spectacle que j'ai trouvé très drôle, mais aussi très dense, qui décortique toutes les raisons qui font que les femmes peuvent être en colère aujourd'hui, que c'est une émotion qui est tout à fait légitime et nécessaire aussi pour notre survie. Elle nous redit, par exemple, dans ce spectacle, que la colère, en fait, elle a pour but de faire arriver un afflux sanguin dans les mains et les doigts pour se préparer à repousser une situation de danger. Et donc, forcément, quand on enfouit cette émotion, on ne sait plus réagir une fois qu'on se fait agresser dans le bus ou ce genre de choses. Bref, ce spectacle passera de nouveau à Rennes en 2025, donc je vous recommande vivement d'aller la voir. Et je profite aussi de ce petit billet sur le milieu du stand-up pour donner d'autres raisons d'être en colère, en donnant des news sur le Me Too stand-up qui avait été lancé par l'humoriste Florence Mendès en janvier dernier, à l'encontre de Seb Melia notamment. Et donc depuis, il y a toute une enquête qui a été menée par des journalistes de Mediapart notamment, et il y a eu des centaines de témoignages qui ont été reçus. Et donc depuis, il y a des nouveaux noms qui commencent à sortir, et donc vous en avez peut-être entendu parler. C'est le cas de l'humoriste Jimo, notamment, qui est placé sous le statut de témoin assisté dans une enquête pour viol en réunion, ainsi que l'humoriste Lenny Mbunga, est également placé sous le statut de témoin assisté dans une enquête pour complicité de viol en réunion. Et donc on rappelle que ce statut ne signifie pas qu'ils sont innocents, mais ça signifie que la justice n'a pas assez d'éléments pour les mettre en examen à ce jour, et donc ils sont placés sous le statut de témoin assisté. Voilà. Et après, on nous dit que les femmes n'ont pas d'humour.
Oui, c'est ça. Merci beaucoup, Suzanne. Effectivement, moi, j'avais vu passer l'info sur ces témoins assistés. En attendant aussi le spectacle de Swann Périssé, on peut la suivre sur les réseaux sociaux. Ouais. Parce qu'effectivement, elle est super drôle quand elle explique comment, au cours d'une relation sexuelle, on peut redemander pour le consentement, etc. Elle a un rire assez communicatif. Ouais. Elle est plutôt drôle. Donc, en attendant son spectacle, on peut la suivre sur les réseaux sociaux. Voilà. Merci beaucoup, Suzanne. Alors, moi, je vais revenir sur ma colère, sur le fameux Yves Mélia, Milia, pardon. En plus, je me trompe. Et sur une autre affaire, j'ai appelé ça « laisser faire la justice » parce que souvent, on entend, oui. Je vais encore prendre une sorte d'accent, mais « laisser faire la justice », arrêtez.
Tu peux prendre la voix de Gérard Darmon dans « La Cité de la peur ».
Darmon, carrément. Je sais que ma thyroïde appuie sur mes cordes vocales, mais ah ouais. Alors, mais laissez faire la justice. Mais laissez faire la justice. Arrêtez avec vos tribunaux médiatiques, vos mises à mort publiques des violeurs, des agresseurs, des assassins présumés. Laissez faire la justice, bordel. Ok, on laisse faire. Laissons faire la justice. Et alors là, on n'est pas déçus. Mazette. Rien qu'au mois d'avril, on a appris deux expressions. Peut-être qu'elle ment et droit de correction. Mais je vais commencer avec celle-ci, droit de correction. C'est l'argument avancé par la cour d'appel de Metz pour relaxer mi-avril le policier Yves Mila, accusé de violence familiale sur son ex-femme et sur ses enfants. Puisqu'en première instance, le policier avait été condamné à 18 mois de prison avec sursis probatoire de 2 ans et s'était vu retirer l'autorité parentale. Il a fait appel. Et il y a 2 semaines, la cour d'appel de Metz s'est appuyée sur un soi-disant droit de correction reconnu aux parents violents qui auraient donc le droit de taper leurs enfants. Là, en l'occurrence, on parle d'un flic qui a menacé son fils de son arme de service pour que celui-ci fasse ses devoirs, entre autres, parce qu'il a aussi étranglé ses fils, les soulevant du sol pour les plaquer au mur, ainsi qu'en a témoigné l'aîné. Je cite, ouvrez les guillemets, « Il me donne des claques, des coups de poing dans le ventre et quand il est vraiment fâché, il nous étrangle et nous fait monter très haut sur le mur. Personne ne va me croire parce que mon papa est policier. » Un enfant de 12 ans qui a tenté de mettre fin à ses jours pour échapper à la violence de ce père, haut gradé de la police, toujours en poste, qui a même échappé au conseil de discipline qui s'impose quand un policier est condamné. Un policier qui a menacé son ex-femme de la tuer ou de la faire tuer parce qu'il a des relations. Parce que bien sûr, les violences ont commencé sur sa femme, des coups et des viols. Quand il était CRS, Yves Mila aurait fait venir des collègues chez lui pour qu'ils aient des rapports sexuels non consentis avec sa femme. Un fonctionnaire qui va être soutenu et protégé par le syndicat auquel il adhère, une sa police, grâce auquel il sera muté pour éviter le conseil de discipline. Alors ce droit de correction n'existe pas dans la loi. Mais les juges de la cour d'appel de Metz s'en foutent apparemment, arguant que, je cite une nouvelle fois, en tout état de cause, il n'est pas dénoncé par les enfants de punitions humiliantes telles que les coups de cravache ou l'obligation de manger au sol pour sanctionner une malpropreté comme cela a déjà pu être retenu en jurisprudence. Fermez les guillemets. Des juges qui considèrent donc ces violences comme légitimes. Ils ne remettent pas en cause l'existence de ces violences. Elles sont bien là, ils les reconnaissent. Mais il les justifie. On a le droit en France de menacer un jeune enfant avec son arme de service quand on est policier. Bien sûr, le parquet de Metz et les victimes se pourvoient en cassation. Mais d'ici là, le policier violent, toujours en poste, pourrait mettre ses menaces à exécution et assassiner ou faire assassiner sa femme. Ça, c'était pour la première expression. La deuxième, peut-être qu'elle ment. Face au dossier de la victime comportant 37 pièces, plainte, témoignage, main courante, etc., un agresseur a été déclaré innocent par un juge qui a avancé, je cite, « peut-être qu'elle ment » en parlant de la victime. Alors la victime, elle n'aura pas de renouvellement de l'ordonnance de protection qu'elle demandait. L'ordonnance de protection, en fait, c'est pendant 6 mois et puis il faut demander un renouvellement. Et bien là, elle ne l'aura pas. C'est l'histoire de la mère d'une jeune fille, Brocéliande, en tout cas c'est le nom qu'elle donne sur les réseaux sociaux, Brocéliande, qui a diffusé une vidéo dans laquelle elle lit une lettre qu'elle adresse à Emmanuel Macron. Elle y décrit l'ex de sa mère comme un homme violent, colérique, obsessionnel, alcoolique, détenteur de nombreuses armes à feu et d'un casier judiciaire parce qu'il a déjà été condamné par le passé pour les mêmes faits de menaces avec armes et agressions sur conjointe ou ex-conjointe. Un homme qui les a menacés, elle et sa mère, avec l'un de ses fusils dont il avait scié le canon. Ça en dit long sur le personnage. Un homme qui a agressé son ex, l'a menacé de la tuer, elle et ses enfants, qui la suit, l'attend, dégrade sa voiture. La victime a un téléphone grave danger, les faits sont donc avérés, mais peut-être qu'elle ment. En septembre prochain, un autre procès doit s'ouvrir pour tout ce que cet homme a fait, d'agression, de menaces, etc. Et la jeune fille, Brocéliande, conclut son courrier à Emmanuel Macron par un « Je vous écris, mais je n'attends rien de vous. Vous n'écoutez pas les mortes, alors vous n'entendrez pas les vivantes. Vous, qui avez fait de la lutte contre les violences faites aux femmes, votre priorité. » Ce sont deux cas, deux exemples parmi tant d'autres, parce qu'il y en a d'autres quand on laisse faire la justice, qui disent ô combien la police et la justice n'écoutent pas, ne croient pas les victimes de violences masculines et à quel point la société ne protège pas les femmes. Le 20 avril dernier, l'Interorga Féminicide, IOF, avait déjà recensé 49 féminicides depuis le début de l'année 2024. 49 femmes assassinées en raison de leur genre. Plus de 3 féminicides par semaine depuis le début de l'année, plus de 12 féminicides par mois. Et je vous mettrai deux liens qui, sur le blog des héroïnes, sur le site de Canal B, qui vous permettront de comprendre le décompte réalisé par Interorga Féminicide, un décompte qui est fait notamment par nous toutes. Voilà, ça c'était le coup de gueule. On finit joyeusement. On finit joyeusement. Hein. On va quand même vous souhaiter un bon week-end. en vous disant de prendre soin de vous, voilà, et puis de vous rappeler que on n'a pas le droit de taper les enfants, non. On n'a pas le droit de taper les femmes, on n'a pas le droit de taper, en fait, on tape pas, on parle, on se met en colère et on parle, comme Swann Périssé. On va se quitter en musique avec Jane Weaver, Perfect Storm. Sinking in the
Les héroïnes, une heure avec des meufs sur Canal B.